Voilà, ben merci Thomas. Attendez, que je m'installe. Alors c'est vrai que le thème de ce matin, c'est un double thème. Est-ce que c'est en même temps, c'est la rencontre avec Dieu, et en même temps, cette rencontre, eh ben, elle nous donne la joie. Bonjour Isabelle. Voilà. Donc, on va parler donc de la rencontre avec Dieu. Et avant tout, j'aimerais quand même vous dire bonjour à toutes et à tous, et que chacun ce matin soit béni dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais aussi émettre le beau souhait que chacun de nous, ici présents, eh bien, puisse vivre une relation intime et profonde, vivante et bénie avec son Dieu, son Créateur, son Père Céleste. Alors, cette relation privilégiée avec le Dieu de l'univers, eh bien, le personnage que j'aimerais vous présenter ce matin, eh bien, l'a réellement vécu. Cet homme, vous le connaissez certainement, s'appelle Moïse. Et peut-être y a-t-il des personnes dans cette salle qui, ce matin, ne connaissent pas du tout Moïse et ne connaissent pas au moins l'essentiel de sa vie. C'est pourquoi je vais vous le présenter assez rapidement. Moïse, en hébreu, c'est Moshé. Il est fils d'Hébreu et il est né en Égypte. Vous savez, l'Égypte, c'est le pays où le peuple de Dieu, à l'époque de Joseph, a immigré et s'est multiplié. Et là, en Égypte, il y a Pharaon, qui est le roi d'Égypte, et qui voit d'un très très mauvais œil cette croissance du peuple d'Israël. Et il craint que ce peuple devienne nombreux et beaucoup trop puissant par rapport aux Égyptiens. Et que même, il domine les Égyptiens. Vous voyez, c'est la peur du grand remplacement, et vous le voyez, rien de nouveau sous le soleil. Oui, c'est ce qu'on entend encore aujourd'hui. Par peur, eh bien, Pharaon imposa par la loi qu'on fasse mourir les garçons hébreux qui naîtraient. Et Moïse, qui lui était un très très beau bébé, eh bien, fut caché puis placé dans une caisse de jonc et déposé sur les eaux du Nil. Et c'est là qu'il fut trouvé par la fille de Pharaon. Elle l'emporta et il fut un fils pour elle. Moïse, lui, va grandir à la cour de Pharaon, mais son cœur était resté hébreu. Et un jour, il vit un chef de corvée égyptien qui frappait un de ses frères hébreux. Alors, il tua l'Égyptien. C'est pas beau, hein. Il le cacha dans le sable, mais saisi de crainte, sachant que Pharaon voulait le faire mourir, eh bien, Moïse s'enfuit et s'installa dans le pays voisin de Madian, où il vécut. Et c'est là qu'on va retrouver donc Moïse. Devenu berger, Moïse faisait tranquillement paître ses brebis lorsque soudainement il aperçoit devant lui un buisson qui était totalement embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Et du milieu du buisson, une voix se fait entendre. « Moïse, Moïse !» « N'approche pas du buisson, enlève tes chaussures, car cet endroit est saint. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Imaginez, vous arrivez, vous êtes berger, vous êtes dans la steppe puis dans le désert, et d'un seul coup vous entendez une voix comme ça. À Moïse, il peut à peine y croire. Dieu lui parle à lui, dans ce lieu totalement désert. L'Éternel lui dit encore, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour te délivrer, pour le délivrer et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon pays où coule le lait et le miel. » Alors mettez-vous un instant à la place de Moïse. Imaginez ce qu'il a pu émotionnellement vivre. En partant ce matin-là, garder ses moutons, je pense qu'il n'imaginait même pas qu'il allait rencontrer Dieu. Lui, un simple berger, mais qui plus est, c'était aussi un fuyard et un assassin. Franchement, on ne pense pas que Dieu il peut se révéler à un assassin. Comment pouvait-il imaginer un seul instant que le Dieu de l'univers pouvait s'intéresser à lui ? Frères, sœurs, chers amis, une vie avec Dieu, une vie chrétienne, commence toujours par une rencontre avec Dieu. Alors, c'est vrai que Dieu, il a toujours envie de rencontrer l'homme, il a envie de rencontrer sa créature. Mais chaque rencontre est bien différente. Tout le monde ne croise pas Dieu dans un buisson enflammé qui ne se consume pas, même si on est tout feu, tout flamme. Hein. Vous savez, ces rencontres-là, ce n'est pas des rencontres quand même habituelles. En réalité, et nous le voyons clairement dans l'exemple de Moïse, eh bien, ce n'est pas l'être humain qui cherche Dieu, mais bien Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Hein, Moïse, il ne cherchait pas Dieu à ce moment-là. Dans le beau psaume 14 de David, au verset 2, on peut lire ceci. Alors, imaginez ce que ça représente. « Du haut des cieux, hein, Dieu il est dans le ciel, l'Éternel regarde les fils de l'homme qui sont sur la terre, pour voir si dans les fils de l'homme, il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui, à la limite, cherche Dieu. » Mais qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il voit sur la terre ? Il voit que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous vous rendez compte ? Nous, on se dit, bah, on n'est quand même pas trop mal, nous. Hein ? Mais pas même un seul. Dans ces conditions où même l'homme le plus moral, le plus religieux, reste un pécheur perverti et égaré, eh bien, il ne peut pas chercher Dieu. Il n'y a aucune personne qui vient et qui dit « moi, je cherche Dieu ». Pour qu'il y ait rencontre, comme pour Moïse, eh bien, c'est Dieu qui va s'approcher de l'homme. Il l'a fait pour nous en Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore sans force pour le chercher, dit l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 6, eh bien Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs que nous sommes, vous et moi. Lui, le Fils de Dieu, saint et parfait, il a quitté la gloire de son ciel, il a pris un corps semblable au nôtre pour nous rencontrer. Bien plus, en mourant sur la croix pour nos péchés, il a ouvert à qui le croit un chemin de salut, de réconciliation avec Dieu. C'est magnifique, non ? Ça nous met en joie. C'est vrai que, en réalité, Dieu n'oblige personne à venir à lui. Il l'appelle, il sollicite son cœur par son esprit, mais il lui laisse l'entière responsabilité d'une décision personnelle. Voilà, il n'y a pas d'obligation à venir à Dieu. Apocalypse 3:20. Et ça, c'est une très belle image de la rencontre que Jésus nous propose par son esprit. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Moi, je rajoute à la porte de ton cœur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, eh bien, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, C'est une très belle relation. Ouvrir la porte de son cœur à l'appel de Jésus, c'est le rencontrer, c'est ça le rencontrer. Alors, écoutez bien ce que dit Jésus. Hein. Jésus ne dit pas, il se peut qu'éventuellement, peut-être qu'un jour ou l'autre, je frapperai à la porte de certains cœurs. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire qu'il le fait. Il est présent. Il le fait de manière certaine. Jésus, lui, est présent et bien présent. Il est au rendez-vous. Il frappe à la porte de chaque cœur, de tous les cœurs. Alors, c'est vrai qu'on peut être sourd à son appel. On peut aussi l'entendre. Hein. Nous pouvons aussi le refuser ou l'accepter. C'est de notre entière responsabilité. Et la question que je pose ce matin, c'est « Voulez-vous ce matin pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, comme l'a dit Jean-Haut tout à l'heure, eh bien, ouvrir votre cœur à l'appel de Jésus. Alors, vous allez me dire, c'est vrai, moi, j'ai jamais entendu Jésus frapper à la porte de mon cœur. À travers moi, ce matin, c'est Jésus qui vous lance un appel. Et là, il frappe. Il frappe ce matin. Voilà. Si vous l'entendez, ouvrez votre cœur. Alors, quand, comme Moïse, on a rencontré personnellement Dieu, le dire aux autres, c'est se heurter à leur scepticisme ou à leur moquerie. Exode 4, verset 1, voici ce que dit Moïse. Il dit, « Ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » C'est vrai, Moïse, il a la trouille, quoi. Enfin, en gros, hein, c'est ça. Hein. Alors moi, j'ai eu un jour l'audace de dire à une jeune fille de Flavigny qui m'interrogeait sur Dieu, je lui ai dit, « Tu sais, je l'ai rencontré personnellement. » Elle m'a regardé sceptique, elle a éclaté de rire, elle m'a demandé moqueuse, « Ah oui, Daniel, et au coin de quelle rue ?» Alors, c'est vrai, j'avais l'air ridicule, quoi. Au mieux, on passe pour un mytho, au pire, pour un détraqué mental. Hein ? Ah, t'as vu la Vierge ? Ben, c'est ça qu'on me dit souvent. Hein. Pour beaucoup de personnes, dire que Dieu existe, qu'on l'a rencontré, eh ben, c'est faire preuve d'autosuggestion. Hein. C'est-à-dire, c'est un bien grand mot pour dire simplement que, comme j'ai envie que Dieu existe, eh ben, je me persuade qu'il existe. Comme je désire qu'il me rencontre, eh ben, je me convainc d'entendre la voix de Dieu. Voilà. Des fois, c'est ce qu'on pense. Pour Moïse, cette vision, cette rencontre, loin d'être un mirage, une hallucination, eh bien, cette rencontre a totalement transformé sa vie. Il a réalisé des miracles par la puissance de Dieu qui agissait en lui. Il a été aussi le porte-parole de Dieu et son bras puissant. C'est ça qui montre qu'il l'a véritablement rencontré. Celui ou celle qui a vécu une telle rencontre sait qu'il l'a vécu et il peut largement en témoigner. L'apôtre Jean, s'exprimant au nom des apôtres, écrit ceci dans 1 Jean 1, versets 1 et 2. En parlant de Jésus, voilà ce qu'il dit. Écoutez bien, parce que ça, c'est formidable. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant Jésus, la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. » Il n'y a pas de place au doute. C'est-à-dire qu'ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Ils ont eu un contact avec Dieu. Ce témoignage est vrai, fort et puissant, et prouve qu'il a été vécu. J'aimerais à présent vous donner une version raccourcie de mon témoignage de rencontre avec Dieu. Alors, je tiens à m'excuser auprès de celles qui l'ont déjà entendu, enfin, celles et ceux qui l'ont déjà entendu. Hein, ça peut être lourd pour eux, mais je tiens à le rappeler ce matin. Alors, je ne débuterai mon témoignage que quelques mois avant ma rencontre avec Dieu. Vous savez, plusieurs fois déjà, Jésus avait frappé de manière répétée à la porte de mon cœur, sans que je prenne peine de lui ouvrir. Des fois, Jésus, il frappe, et puis on ne répond pas. Bon, je venais d'avoir à peu près 33 ans, je travaillais comme kiné à Flavigny, et ma vie, sans être désordonnée, était chaotique. J'avais déjà vécu plusieurs échecs dans ma vie, et je n'étais pas très stable dans mes sentiments et dans mes émotions. En réalité, au fond de moi, j'étais vraiment quelqu'un de très seul. Pour moi, Dieu était un concept assez abstrait qu'on rencontre peut-être après la mort. Voilà, c'était à peu près ça. Une nuit, j'ai fait un rêve et j'ai vu que... Alors, je m'excuse. J'ai vu clairement une jeune fille qui me souriait. C'était une de mes jeunes patientes. Mais je n'y ai pas porté attention sur le moment. Cette jeune fille a obtenu son bac et a quitté l'établissement. Je ne pensais jamais la revoir. Un jour, je l'ai rencontrée, à ma très grande surprise, devant les boîtes à lettres de mon immeuble. « Oh, Wardia, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle m'a dit, « Bah, j'habite ici, et toi ?» Bah, j'ai dit, « Moi aussi. » Alors nous nous rencontrions souvent, je suis tombé amoureux d'elle, et quelques mois plus tard, ben, nous avons décidé de vivre ensemble. Et je me suis profondément attaché à elle. Puis un jour, elle m'a quitté. C'est comme ça les femmes. J'avais déjà vécu quelques séparations, mais celle-là, je ne l'ai pas supportée. Alors je sais aujourd'hui que c'est Dieu qui avait créé cette situation. Vous savez, je pense souvent à ce chant « Béni soit ton nom » qu'on chante souvent ici, aux paroles qui disent « Tu donnes et tu reprends ». Voilà, Dieu il avait repris. J'ai alors vécu une dépression et une crise de mélancolie comme jamais je n'ai vécu. Je rentrais chez moi et je pleurais. Au travail, je devais m'isoler pour étancher mes pleurs. Et cela a duré quelques mois, mais ça a été vraiment affreux. C'était une situation affreuse. Au travail, une collègue chrétienne évangélique qui avait remarqué ma tristesse a essayé de me parler de Dieu, mais sans succès. Je n'avais pas le cœur à ça. Alors elle m'a seulement dit « Daniel, tu peux crier à Dieu, hein, il te répondra ». Je lui ai dit poliment « Merci », mais en pensant « Je ne le ferai jamais ». À cette époque, mon meilleur ami André, avec lequel j'avais déjà fait quelques voyages, m'a proposé de partir en Équateur. Il m'a dit, tu verras, ça te fera du bien. Et je me suis dit alors, partir, mettre de la distance avec Nancy, avec Wardia, ça me remettra sûrement les idées en place. Mais la distance, ça n'a rien fait du tout, au contraire. En Équateur, la situation était pire qu'à Nancy. Vous savez, les beautés du paysage me rendaient complètement indifférent. J'avais une caméra, je ne filmais rien. Les habits indiens, les magnifiques volcans qui entouraient Quito, ça ne m'intéressait pas. Que d'habitude, je suis vraiment très sensible à ça. Je mangeais plus, je pleurais, et mes seuls moments de paix, je les trouvais dans les églises que je squattais. C'était bizarre. Excusez-moi, ça me fait encore de l'émotion 40 ans après. Un soir, je suis rentré dans le petit hôtel de Quito. Mon ami était sorti seul. Il en avait marre de traîner une loque derrière lui. Moi, je comprends, quoi. J'étais rempli de mauvaises pensées. Et franchement, je pensais très sérieusement mettre fin à mes jours, tant je souffrais. Franchement, j'en avais marre. Lorsque je ne sais pourquoi, je me suis souvenu des mots prononcés par ma collègue. Vous vous rappelez ce qu'elle m'avait dit ? Crie à Dieu, il te répondra. Alors, dans une sorte de réflexe inconscient de survie, j'ai crié, quoi. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, viens à mon secours. Parle-moi. Franchement, je ne sais même pas si je m'attendais à une intervention divine, à une réponse. J'ai crié, mais je n'attendais rien, en fait. Soudain, chers amis, j'ai clairement entendu cette phrase de Saint Maur, que j'arrive même pas à dire. Daniel, pourquoi écoutes-tu Satan ? Je l'ai clairement entendu. Franchement, j'avais crié à Dieu, j'avais demandé son secours, qu'il me parle, eh bien Dieu a répondu. Et mes amis, ces cinq mots que j'ai reçus ont fait plus d'effet en moi qu'un long discours théologique. J'ai compris qu'un Dieu qui parle est un Dieu vivant. J'ai compris qu'un Dieu qui m'appelle par mon nom est un Dieu qui me connaît. J'ai compris qu'il savait la cause de mon mal-être et qu'il m'appelait à le suivre pour le connaître et l'écouter. Voilà, j'ai compris tout ça, et ça a changé complètement ma vie. Ces quelques mots ont bouleversé mon existence. Jésus a donné un sens à ma vie. Il m'a guéri de mes peurs et de ma solitude. Il a ouvert un chemin nouveau vers le royaume de Dieu. Il m'a donné une formidable épouse, Wardia, et une famille, il m'a donné aussi une église. Cela fait environ 40 ans que j'ai reçu ces cinq mots, que j'ai rencontré Jésus. Jamais je n'ai regretté d'avoir crié à lui et de lui avoir ouvert et offert mon cœur. Jamais j'ai regretté ça. Dieu, par ma rencontre avec Jésus-Christ, m'a ouvert la porte du salut. C'est merveilleux, franchement, la porte du salut. Bon, excusez-moi, deux secondes. dans Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8, voilà ce qui est écrit. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, c'est-à-dire Jésus. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. » À présent, j'étais parti sur la route de la rencontre avec Dieu de l'univers, enfin, dans sa vie avec lui, c'était fantastique. Mais maintenant, je vous invite à revenir à Moïse et au livre d'Exode, au chapitre 33. Après sa rencontre initiale, Moïse éprouve le profond besoin de rencontrer son Dieu, de lui parler, de l'écouter, et cela de manière plus régulière. Dieu lui-même désire relationner avec Moïse. Et savez-vous où se déroule ce moment de rencontre? Eh bien, on va le lire dans Exode 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp. Il l'appela, tout simplement, tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il pénétrait dans la tente, la colonne de nuée, c'est-à-dire la présence de Dieu, descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Je vous laisse franchement imaginer ce moment béni où vous pouvez parler face à face avec Dieu. C'est fantastique. À cette époque, Moïse parlait avec Dieu, puis il rapportait ses propos au peuple. Aujourd'hui, nous qui avons rencontré Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons un libre accès au Père. Nous pouvons lui parler, par exemple, par nos prières. Matthieu 6, verset 6. Quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On peut aussi s'adresser à lui en lui parlant par nos chants, par nos louanges, par l'adoration. Vous voyez, si jadis Dieu parlait au peuple par l'intermédiaire de Moïse, eh bien aujourd'hui, il nous parle à nous directement par sa parole vivante, qui est la Bible, puissamment inspirée par le Saint-Esprit du Christ. Et là, on peut le lire dans la Bible, Hébreux 1, verset 1, « Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, comme par exemple Moïse, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, eh bien, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. » Voilà, c'est un peu différent. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant, un Dieu relationnel, un Père qui aime à passer du temps avec ses enfants pour les écouter, leur parler par la Bible. Est-ce que nous avons le même désir profond que lui? Dieu, lui, il est disponible 24 sur 24. Psaume 121, verset 4. Jamais il ne dort, jamais il ne sommeille le gardien d'Israël. Il est disponible. Sommes-nous disposés à le rencontrer? Avons-nous, comme Moïse, une tente de la rencontre chez nous, où on peut le rencontrer? Un lieu pour le retrouver? Avons-nous le désir profond de passer du temps avec lui, comme une personne qu'on aime et qu'on a hâte de retrouver? Est-ce qu'on a du temps pour lui? Frères, sœurs, chers amis, Dieu nous a donné la preuve l'authenticité de son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, eh bien Christ est mort pour nous, il est mort pour nous rapprocher de Dieu. C'est donc plein de gratitude, rempli d'un amour reconnaissant, et non par obligation bien sûr, que nous venons passer chaque jour un temps d'intimité, d'authenticité, de cœur à cœur avec celui qui nous attend et veut nous serrer tel des enfants dans ses bras d'amour. Avons-nous du temps à consacrer pour ce cœur à cœur? Voilà, je vais dire quelque chose qui va parler à Thomas. Il te demande quoi? Il y a de cela plusieurs années, j'ai bien trouvé du temps et du courage pour me lever à 3 heures du matin pour regarder à la télé une demi-finale de Coupe du Monde de rugby entre les All Blacks et la France. Je travaillais le lendemain, mais cela ne m'a posé aucun problème, car j'avais envie de le regarder, de le voir. Quand on a envie de regarder, de voir quelque chose, on n'éprouve aucun problème. Alors si je trouve du temps et du courage pour me lever à 3 heures du matin, pourquoi je n'en trouve pas pour me lever une demi-heure plus tôt afin de rencontrer Jésus, qui est quand même celui que j'ai rencontré, qui m'aime, que j'aime, enfin, que je dis aimer, voilà. Donc frères et sœurs, en réalité, rencontrer Dieu chaque jour n'est pas une question de temps, mais de priorité. C'est ça en fait. Où est-ce que je place mes priorités ? Jésus, dans la Bible, Matthieu 6, 21, nous interpelle pour nous mettre face à nos priorités. Il dit clairement, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Posons-nous chacun, chacune, cette question, Jésus est-il mon trésor ? Est-ce que Jésus est votre trésor ? Alors personnellement, mais chacun a sa tente de la rencontre, sa façon de passer du temps avec Dieu. Moi voilà comment je passe mon temps de rencontre avec Dieu. Je le fais le matin de préférence parce que ça ouvre toute la journée. Je me lève à 6h30 chaque matin, je rencontre Dieu, soit dans mon bureau, soit dans la cuisine, parce qu'à cette heure-là, il n'y a personne. J'écris dans un petit carnet la date du jour, un mot intime pour Dieu, et puis le chapitre du livre de la Bible que je vais lire. Je lis un chapitre les jours bénis, un demi-chapitre les jours où j'ai moins le temps. Hein, quand je suis chez ma fille, par exemple, il y a la petite Livia qui vient le matin, « Papi, papi !» Alors donc là, je lis qu'une demi... je lis qu'un demi-chapitre. Et puis je surligne en jaune les passages qui me parlent, parce qu'il y a beaucoup de passages qui me parlent. Vous savez, là j'ai là ma Bible... La Bible, elle me ressemble. Elle est un peu usée, mais elle continue à parler. Vous voyez ? Puis, je vais dans la salle à manger, je prends un temps de prière, où j'ouvre alors là totalement mon cœur à Dieu, je me décharge sur lui, je lui remets tous les sujets de prière que j'ai à cœur. Hein, je lui parle de l'Église, je lui parle de chacun de vous, je lui parle de ma famille, je lui parle de tout. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a des choses qui se passent aussi autour de moi. Je lui parle à cœur ouvert. On rencontre chaque jour le Dieu de grâce par amour et par reconnaissance. Hein, je l'ai dit, ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas être légaliste du genre « je dois, il faut, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va me punir. » Non, ce n'est pas ça. Notre relation est une relation d'amour, d'amitié. Et quand vous aimez quelqu'un, bah vous désirez être en sa présence. Ce n'est pas un devoir, c'est un besoin affectif profond. C'est ça la relation avec Dieu. Alors si en toute première raison, on rencontre régulièrement Dieu par amour et reconnaissance, eh bien on le rencontre aussi pour une toute autre raison, et ce sera ma troisième et dernière session référence à Moïse. Et je vous invite à lire le beau passage d'Exode 34, versets 29 à 35. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Mais les Israélites s'approchèrent de lui. Quand il eut terminé de leur parler, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. C'est incroyable. Il était obligé de mettre un voile pour pas que ça soit trop lumineux. Quel passage extraordinaire ! Après avoir parlé avec Dieu, le visage de Moïse rayonnait. Et tout le monde pouvait constater ce phénomène corporel. Alors c'est vrai, frères et sœurs, chers amis, les rencontres régulières de Moïse avec Dieu avaient des effets bénéfiques. La proximité de Dieu se reflétait sur lui. Alors passer du temps en intimité avec Dieu a forcément des conséquences positives sur nos cœurs, nos corps, nos âmes et nos vies. C'est vrai, on comprend tous dans les exemples de notre vie, alors j'ai donné des exemples idiots, hein, que s'il nous arrivait de dormir dans un congélateur, nous serions transformés en glaçons. Si nous nous exposons à un soleil de plomb, nous avons de fortes chances d'être brûlés. Et si nous comprenons ces choses, comprenons aussi que la proche présence de Dieu a aussi de grands effets sur nous. Frères et sœurs, chers amis, ce qui est vrai pour les lois naturelles l'est aussi pour les lois spirituelles. Et cet épisode de Moïse, son visage rayonnant, symbolise et témoigne les effets que cette rencontre fait à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a une rencontre spirituelle et intime avec Dieu? Regardez, Luc 24. Souvenez-vous de ces deux disciples qui marchaient en direction d'Emmaüs après la résurrection de Jésus. Jésus les rejoint, mais eux ne le reconnaissent point. Il leur parle, mange avec eux, les enseigne, il rompt le pain, le leur donne, et puis soudainement ils le reconnaissent. Puis il disparaît à leurs yeux. Alors le témoignage de ces deux disciples est alors étonnant et édifiant. N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Un feu dans notre cœur. Est-ce que ça vous arrive d'avoir le feu dans votre cœur? Quand vous lisez la Bible, quand Jésus vous parle, quand vous avez une relation d'intimité avec Dieu. Être en intimité avec Dieu, le rencontrer chaque matin, a de multiples effets spirituels sur nous, et je n'en citerai que trois ce matin, faute de temps. Le premier, nous venons rencontrer Jésus qui est le vrai cep de vigne. « Je suis le vrai cep, dit Jésus, demeurez en communion avec moi, et je resterai uni à vous, et j'agirai en vous, dans votre cœur. » Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Ce n'est pas possible. Je suis le cep de vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Voilà. En nous approchant de Dieu chaque matin, eh bien Dieu fait couler en nous la sève nourricière qu'est l'Esprit de Dieu, qui nous fait grandir dans sa connaissance et qui produit en nous le fruit de l'Esprit, que sont l'amour, la joie, on en a parlé ce matin, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà tout ce que Dieu fait en nous quand on s'approche de lui. Deuxièmement, en venant rencontrer Dieu chaque matin, nous venons comme une terre à féconder, à ensemencer. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplit mes desseins. Voilà ce que fait l'intimité qu'on a avec Dieu. Ça travaille en nous, ça travaille et ça produit des effets considérables. Frères et sœurs, la lecture de la Bible, sont les paroles de Dieu que nous laissons entrer en nous. Elles fécondent notre cœur. Et c'est vrai que Dieu, il a pour chacun de nous un plan de vie et nous entrons avec lui dans ce plan de vie. Et puis le troisième et dernier, en venant rencontrer Dieu chaque matin, nous venons rencontrer Jésus, qui est la lumière du monde. Vous savez, Jésus parla de nouveau à ses disciples et leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Alors c'est vrai que, frères et sœurs, chers amis, nous vivons dans un monde qui s'assombrit de plus en plus et qui va s'assombrir encore plus. Les perspectives d'avenir sont très mauvaises, avec des guerres et des bruits de guerre qui résonnent à nos oreilles, partout. Nous sommes dans un monde de violence et de fake news. On appelle le bien mal et le mal bien. Savez-vous que 62 millions d'Américains aux USA, qui ont été récemment sondés, disent se moquer de savoir si ce qu'on leur dit et la vérité ou le mensonge, ils s'en fichent. Qu'est-ce que la vérité ou le mensonge, c'est pas grave. Ce monde a été plongé dans une profonde obscurité, et la vision humaine, à court et long terme, est aussi claire qu'un jour de grand brouillard à Londres. On voit rien. On voit rien dans notre avenir. En venant rencontrer Dieu chaque matin, eh bien nous recevons la lumière de la vérité qui émane, qui jaillit de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » Par ces paroles de vérité, Dieu éclaire notre intelligence et illumine toutes nos pensées, même celles des plus simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Nos rencontres régulières avec Dieu le matin font de nous des enfants de lumière, les ambassadeurs de Jésus dans le monde de ténèbres. Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde, et cette lumière, elle doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites. » Voilà, c'est ça. Lorsque nous brillons devant les hommes, eh bien certes, ils voient nos bonnes œuvres, les fruits que nous portons, la lumière que Dieu produit en nous, mais vous savez aussi que la plupart du temps, ils ne les attribuent pas du tout à Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas rencontré et qu'ils ne le croient pas. Frères, sœurs, cela ne doit pas nous empêcher de briller, ça fait partie de notre ADN spirituel et de la volonté de Dieu pour nous. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais ce matin lancer un petit défi pour Noël. À toutes celles et ceux qui ont entendu le message « Rencontrez Dieu », mais qui par manque de temps ou par manque d'investissement personnel n'ont pas de rencontre matinale avec Dieu. Alors je demande, êtes-vous prêts, et cela pendant une semaine, à vous lever une demi-heure plus tôt pour la consacrer à Dieu ? Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui sont prêtes à se lever une demi-heure plus tôt pour consacrer ce temps à Dieu ? Faites-le ! Puis venez témoigner un dimanche matin, demandez à Jean-Haut, un dimanche matin, devant l'Assemblée, pour dire si ce que j'ai enseigné ce matin est vrai ou faux. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute attentive et bienveillante. Merci.